Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+, fréquence 91 à Montpellier, chaque jeudi à 13h15 et 19h15. On peut retrouver les émissions sur les podcasts de Radio FM+. On peut aussi écouter l'émission sur le site internet www.fmplus.org. Je vais vous parler aujourd'hui de l'auteur d'une œuvre foisonnante, un auteur d'une œuvre foisonnante, Max Roquette, en occitan Max Roqueta, qui est un écrivain français de langue occitane qui est né en décembre 1908 à Argelier, dans l'Hérault. Cet auteur de prose, de poésie, de théâtre a une dimension universelle. Son œuvre a été écrite pour l'essentiel en occitan. C'est une œuvre de prosateur, de poète et de dramaturge. Cette œuvre a dû attendre les premières traductions avant d'être reconnue dans de nombreux pays et en France, où elle reste encore souvent mal connue. Vers Paradis, dont sont extraites les lectures que je vous propose, est un recueil de courts récits ayant pour cadre les garrigues de l'arrière-pays montpelliérain. Cette œuvre est considérée comme son chef-d'œuvre. Il était également un joueur passionné de balle au tambourin durant sa jeunesse. Il a fondé la Fédération française de jeux de balle au tambourin, dont il est resté longtemps le président. Il a été parfois surnommé le Grac occitan, a joué un rôle incontestable dans le maintien et la sauvegarde de la culture d'oc et de la littérature occitane. Il fit partie de l'Institut d'études occitanes qu'il a présidé. Décédé en 2005 à Montpellier, il repose au cimetière d'Argelier. En 2008, la célébration de son centenaire a été l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cet immense écrivain, Max Roquette. Est avant tout et littéralement un enchanteur, celui qui sait, à l'aide du seul pouvoir des mots, modifier en profondeur notre vision de la réalité quotidienne et ouvrir grandes les portes du réel jusqu'aux abîmes qui les habitent. Et c'était une citation de Philippe Gardy. Alors, une petite analyse de Vers Paradis. Vers Paradis trouve sa source dans l'austérité lumineuse des arrière-pays languedociens, ce pays au reflet de légende. En puisant dans les réminiscences d'une enfance profondément marquée par le contact avec la nature sauvage et en se réappropriant le matériau bruissant des contes issus de la tradition orale occitane, Max Roquette chante la beauté universel et tragique du monde et élève au rang du mythe les personnages les plus humbles de la vie quotidienne. Ainsi, sous sa plume, le chasseur blessé qui agonise, la très jeune prostituée d'Arles qui va s'offrir au gardien dans un mas de Camargue, le musicien prodige qui fait danser le diable, le vagabond sans autre attache que la bonté de la nuit, ou encore le renard qui meurt de soif dans un bassin asséché, deviennent les symboles vivants de l'humaine condition. Portée par une langue charnelle et éblouie, l'œuvre majeure de Max Roquette s'impose par son rythme et sa puissance poétique. Et c'était une partie de la quatrième de couverture de son recueil Vers Paradis, paru, réédité aux éditions Actes Sud, traduit de l'occitan par Max Roquette et Alem Suré Garcia.
ye tranai la de rai la ye cupa de rai e tres tranai la de rai e tranai de ri de rai dupla de rai e tranai la de rai la ye cupa de rai e tres tranai la de rai e tranai de ri de rai.
Et dans ce recueil, Vers Paradis, il y a quatre récits dédiés à des sources, paroles pour quatre sources. Et j'ai choisi Fombelette. Celle-ci était au fond de la combe, sous le chemin des charrettes, et semblait, au pied du versant, regarder la sombre paroi de la montagne des huttes, las hutas, la zut, comme dit le cadastre. Et c'était le nom de ma grand-mère. Las hutas, savez-vous ce que c'est ? Ceux d'ici le savent. Ce sont des ruines. C'est ce qui reste d'un village si ancien que le nom s'en est perdu dans la nuit des siècles et des ans. L'âge de la pierre. Et la source, la Fombelette, entre ses dalles antiques et sa fange tout autour, et ses joncs solitaires, fils de 1000 ans de joncs qui ont incliné leur pointe aiguë sur son eau, la source attend encore les filles de là-haut, qui, le long du rocher, par un sentier de dalles usées et reconquis par les yeuses, descendaient chaque jour pencher leur corps sur le miroir. Fombelette, 1000 ans de joncs, 1000 ans de vent, 1000 ans de visage, 1000 ans d'oiseaux. Là-haut, les pierres ruinées marquent l'enceinte des pauvres maisons. Piège pour les nuages, le miroir nourrit sa fange. Un maigre figuier sauvage, aucune fille ne viendra plus. Mais chaque jour, dans l'été rassasié de chaleur, de silence et de lumière, toujours à l'heure qu'ils auront élu, les perdreaux étoileront la poussière de leurs pas prudents pour le délice d'une perle de gel glissant dans leur gorge de pierre à feu. Les filles riaient quand elles revenaient de la source, la cruche sur l'épaule. Elles s'arrêtaient pour se reposer à l'ombre des chênes verts. Et l'ivraie, comme celle d'aujourd'hui, était souple sous leurs pieds nus. Un merle fuyait en criant, et la combe en prolongeait l'écho. Douceur des soirs éternels, elle n'avait pas quitté le miroir que la première étoile y versait une larme claire. Le hibou solitaire abandonnait au soir une larme de cristal. Le dernier serpent s'enfonçait dans son trou.
Ser señan, tanjulita y mía, ser señan, tanjulita y man.
Ser señan, tanjulita y mía, ser señan, tanjulita y man.
Reencontrario danza que danse o en pla, reencontrario danza que danse o en pla,
reencontrario danza que danse o en pla, reencontrario danza que danse o en pla,
que danse o en pla, tanjulita y mía, que danse o en pla, tanjulita y man.
Que danse o en pla,
Nous parlions tout à l'heure du renard qui meurt de soif dans un bassin asséché. Voici un extrait. Le renard dans le bassin. Roi dans son territoire, c'est la loi. Son territoire recouvrait tout un côté de la colline, un océan de bruyères couvert de rouvres, de châtaigniers et de grands chênes verts, royaume de la nuit plus que du jour et encore. Quand il chassait, son glapissement se perdait parfois dans l'étroitesse des combes pour ressurgir soudain sur la crête ou sous les étoiles. Pas de velours sur l'herbe souple, museau au vent, le poil luisant, bien lissé par le frottement des branches, il buvait l'air frais et humide de la nuit où flottait entremêlé le parfum sauvage des cistes et les odeurs subtiles de gibier. Et maintenant, son instinct ne lui permettait pas d'en chercher la raison. Il se trouvait là, au fond du bassin de Gardille, asséché depuis plus de 50 ans, plein de ronces, de graviers, de grosses dalles éboulées. Et les clés que formait l'herbe soulignaient le dallage ancien qui retenait les rares eaux de pluie. Prisonnier d'un grand bassin long de 10 pas, large de 5, haut de 4, cela pour être sorti de son territoire. En haut, le ciel, traversé seulement de nuages et d'oiseaux durant le jour, de constellations et de lunes durant la nuit. Au nord, le mur du bassin s'élevait du double pour soutenir la terrasse qui dominait tout le jardin abandonné. Au nord de la terrasse se découpait un arbre desséché, blanc sur le ciel. Le grand micocoulier mort depuis des années, dépouillé de feuilles et d'écorce, lisse et nue, plus abandonné encore que le vieux jardin. Désormais insensible, quand le vent chantait dans les chênes verts, lui, avec ses branches blanches privées de rameaux, restait immobile et silencieux. Il attendait. Qu'attendait-il ? Il était mort et ne le savait pas. Vivant, il ignorait tout autant sa propre existence. Mais il était là. Le vent jouait dans ses feuilles. La sève gonflait une écorce ferme et pulpeuse. Les oiseaux se reposaient dans son ombre. Les palombes discrètes, à chaque descente en automne, à chaque retour au printemps, lui apportaient un parfum inconnu d'espace et de liberté. Peut-être qu'ailleurs, le monde bougeait. Peut-être que les arbres vivaient autrement que dans cette perpétuelle attente, semblable à celle d'une pierre au plus profond de la mer, parmi les herbes vives, remuées comme des vagues. L'arbre sec se dressait comme un crucifié, et derrière son squelette apparaissait la maison des hommes, dont les fenêtres laissaient voir le ciel et qui jetait sur le jardin une ombre démesurée. Le profil de son faîte de tuiles et son silence. La maison aussi attendait. Qu'attendait-elle ? Peut-être le retour de ces hommes enfuis, qu'il avait animés et tenus en éveil. Aujourd'hui, ses yeux vides béaient sur le velours profond des bois de chêne vert, et plus haut, sur le ciel, où s'enfuyaient, impatients de se perdre sur la mer, les nuages blancs. Et le renard aussi, dans son bassin, attendait. Qu'attendait-il ? De bondir assez haut pour franchir la paroi et de chasser à nouveau, à travers les bruyères, le lapin, le levrault et le jeune perdreau. De manger, parce qu'une bête vorace lui rongeait le ventre, et qu'il fallait à tout prix rassasier cette bête. Par 7 fois de suite, il avait vu la nuit, lentement s'éclairer du côté de son domaine, et les oiseaux se dégourdirent dans les arbres. Le soleil atteignait enfin le faîte de la maison morte. C'était l'heure où, repu, il revenait au gîte. Là, calmement, il léchait sur ses pattes les gouttes de sang oubliées et se préparait, bien caché sous la bruyère, à laisser passer l'éclat implacable du jour. Mais comme la nuit n'avait pas été généreuse et que la faim lui tordait le ventre, il se prenait alors à chercher le long du mur l'escargot oublié, le lézard engourdi par la fraîcheur de la nuit, le papillon posé sur une feuille, espérant le retour d'une chaleur nouvelle, la souris fourvoyée comme lui dans ce trou. Il en avait attrapé une le 3e jour. Il avait aussi mangé, tout en retroussant ses babines de dégoût, quelques escargots et 3 bourdons. Il avait mâché un lézard, dégluté un papillon, maigre repas. quand l'autre, dans son ventre, lui tordait les tripes. Il en oubliait de se lécher le poil, qui devenait terne et poussiéreux.
L'autre jour, mi père menait, oui, hey, 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 la déridérine, sous camin d'étalérin, ah, 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 la déridérin, sous camin d'étalérin, sous camin d'étalérin, sus mon cami jour incontri, hey, la déridérine, le hymne du avocat, ah, 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 la déridérine, le hymne du avocat, le hymne du avocat, Julie dit bonjour madame, hey, 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 la déridérine, una dumbus l'avocat, ah, 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 la la dumbos la bucat ne jale bine, hei, 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 la deriderena, ne sei pacor vindra, ah, 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 la deridera, ne sei pacor vindra, ne sei pacor vindra,
sus mon cami jure incontri, jure incontri, le hymne de la bucat, la bucat, sus mon cami jure incontri, jure incontri, le hymne de la bucat, la bucat.
Je citais la jeune prostituée d'Arles qui va s'offrir au gardien. Je vais vous lire deux extraits du texte qui s'appelle « Le spectre de la lune pleine ». Bien que souriante, la fille sentait son cœur battre très fort. Elle savait où elle allait. Elle savait ce qu'ils attendaient d'elle. La vieille Yuri Bouddha le lui avait dit. C'était simple, c'était clair. Dans ce mas perdu de la Camargue, une douzaine d'hommes étaient rassemblés, bergers, valets, gardiens, que le besoin de femmes finissait par rendre fous. Certains redevenaient sauvages, cédaient à la bestialité, une chèvre, une brebis, les calmaient pour un temps. D'autres s'accouplaient entre eux dans la paille. Le régisseur avait imaginé ce biais. Il était allé trouver une vieille arlésienne de sa connaissance et chaque mois, à la pleine lune, choisir un nom de saint aurait pu porter malheur. Une fille venait, la nuit de la pleine lune. Il faisait un repas, puis il cherchait à la fois la tendresse dont ils étaient obscurément sevrés et le plaisir que réclamaient leurs reins. Un peu plus loin, au petit matin, la fraîcheur la réveilla. Le feu était mourant. Une pauvre chaleur venait de la cheminée. Elle tira la couverture jusqu'à sa bouche. Elle s'étira longuement. Le soleil, un pâle soleil d'hiver, jetait dans la chambre un faible rayon. Il devait être assez tard. Cependant, la maison était silencieuse. Elle s'habilla. En bas, il n'y avait que le vieil homme à la même place que la veille, quand elle était arrivée au mas. Elle n'avait pas remarqué dans le renfoncement de la cheminée le régisseur, silencieux. Il ne releva pas les yeux, perdu dans la flamme, comme honteux d'avoir tenu et pris ce corps d'enfant. Il la fit remanger et boire sans dire un mot. Le vieux la servait, puis le régisseur se leva. Il comprit qu'il était temps de partir. Elle comprit qu'il était temps de partir. Il lui offrit, enfermé dans un mouchoir neuf, peut-être acheté pour la circonstance, un gros tas de pièces de toutes sortes. Il voulait qu'elle les comptât. Comme elle ne savait pas, il le fit à sa place. Elle les prit, elle les enfouit dans sa veste. Il la reconduisit jusqu'à la grange. La cavale blanche était là, harnachée. Il l'aida à monter. Elle lui sourit timidement. Ses belles lèvres entrouvertes sur des dents aussi blanches que la chair blanche de l'amande. Lui tendit la main. Son regard se perdait sur le chemin. Il fuyait, les yeux bleus d'enfant tournés vers lui, attentif, interrogatif. Mais sur rien, peut-être sur la vérité de cette nuit, sur le souvenir de cette possession, sur un éventuel retour, qui le saura ? Elle serra les genoux et la cavale se mit en marche.
De que s'lufine estragen, de plumes de pavon, mira l'antera, de plumes de pavon, mira l'anton, de plumes de pavon, mira l'antera, de plumes de pavon, mira l'anton, de que s'lu l'ambrissage, de que s'lu l'ambrissage, de que s'lu l'ambrissage, de que s'lu l'ambrissage, da roses ie butons, mira l'antera, da roses ie butons, mira l'anton, da roses ie butons, mira l'antera, da roses ie butons, mira l'anton,
de que s'lu cai wange, 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 de poches de capon, de poches de capon,
de poches de capon, de poches de capon.
Le récit que je vais aborder s'appelle Le tombeau de Jean-Henri Fabre. Et pourquoi je suis attachée à ce texte ? Parce que Jean-Henri Fabre était un célèbre entomologiste. Et chaque fois que je prends la route pour me rendre dans les Hautes-Alpes, je passe par Sérignan-du-Comtat, devant la maison de Jean-Henri Fabre. Il y a beaucoup de sculptures dans le village pour évoquer son personnage célèbre. Le tombeau de Jean-Henri Fabre. Quand un espace aride ne connaît aux quatre vents d'autres limites que l'horizon du ciel, on le nomme désert. L'Amérique possède un tel espace parmi tant d'autres, et c'est le désert du Nevada. C'est là, sous la chape du jour, que se noue un drame à deux personnages. Le premier, la guêpe Pepsis, qui n'a jamais su et ne saura jamais qu'elle est guêpe, encore moins Pepsis, elle s'en moque éperdument, autant que cette étoile connue de moi. Et que les hommes, quand ils l'évoquent, affublent du nom de l'étoile, de l'arbalétrier, peut bien se soucier de ce nom. Cela lui est aussi étranger que le signe de la croix. Donc, comme la guêpe, bien que Pepsis n'évoque rien, du moins pour nous, nous parlerons d'elle, d'une autre façon, de son apparence. Nous en ferons ce qu'elle est vraiment. Un farouche cavalier de l'air, revêtu d'un manteau flottant, rouge comme un feu de forge, et d'un habit noir, étroit et moulant. Il vole par l'onceau nerveux et se pose tout en marchant, très affairé, sans jamais s'arrêter, fouillant de tous côtés, à la recherche d'une grotte où peut-être se cache l'ennemi favori de sa chair et de son espèce, la tarentule venimeuse, l'araignée la plus foudroyante du désert, dont la morsure tue instantanément des bêtes 20 fois plus grosses qu'elle. Il y eut un temps où le cavalier ne l'avait pas encore vue. C'était cela toute la préhistoire, paisible, où rien ne pouvait venir que de bon, où tout était dans l'ordre habituel, où les fleurs étaient des fleurs et les fruits des fruits, où les heures du jour et celles de la nuit s'égrenaient en un lent cortège. Aucun souci de l'avenir, car tout était bien connu et bien tracé dans un déroulement continu. Ce regard ne s'était pas encore posé sur elle. Elle n'était pas encore entrée dans le champ de cet œil. Elle n'était pas encore devenue une part de ce regard et de cette vie étrangère qui allait jeter son ombre sur la sienne, la prendre et l'épouser pour toujours. Vint alors l'instant précis où le regard bleu d'acier du cavalier toucha la tarentule. Auparavant, seul régnait la paix et l'espoir. Désormais, intervenait ce que certains appellent le destin, le hasard, que sais-je encore, et qui avait noué, tant pour l'un que pour l'autre, cette rencontre. La guêpe était dans l'œil de l'araignée, comme dans une grotte mystérieuse. L'araignée était dans l'œil de la guêpe, comme dans un filet.
La mienne s'était pleine, la toi s'était pleine, du soupe des ramales, d'un vitre des chingares. La mienne s'était pleine, la toi s'était pleine, d'un la savole et la chingare, et t'avais d'un vitre des pains.
Était également médecin. Il a effectué toute une carrière de médecin. Et ce passage que j'ai choisi évoque justement son métier de médecin. C'est un passage de Un figuier pour Cassola. Le cycle du soleil ramena ainsi des années et des années de vendanges et la venue des montagnards. Le médecin, lui aussi, avant de reprendre les études, prêtait main forte, il se souvient. Tout ce qui dort encore dans la mémoire, prompt à émerger à grands lambeaux de vie, pour peu qu'une frêle lueur en éclaire le sommeil. La chaleur, l'ardente chaleur, les rayons de septembre sur les reins, brisés à force de se pencher sans fin sur les souches, les herbes qui s'agrippent, les nids de guêpes dans les feuilles, les pinceaux si lourds, les filles qui s'attardent et qu'il faut aider et dont parfois la main, hasard ou non, se mêle à la vôtre. Parfois, pour se donner du courage, une chanson reprise par tous, mais qui se perd vite. Les passages entre les cèpes, en enfilade interminable, du matin au soir. Les moustiques, la montagnarde chante. Elle parle d'une femme qui avait, paraît-il, des diamants en perles fines. Personne ne rit. Pour eux, c'est pareil. Ni les uns ni les autres n'ont jamais vu et n'en verront probablement jamais. Sinon porté par d'autres, et de loin qui plus est, qu'importe. Il faut éviter la tristesse et la lassitude. Il ne faut pas cesser de chanter, tout y passe. Aussi bien la fonte de Nîmes que l'eau cocoute est morte, Rossignolet sauvage, que Malbrook. La montagnarde y va de tout son cœur. Madame a sa tourmente, si haut qu'elle peut monter.
Thank you.
J'espère que vous avez aimé être porté par cette langue charnelle et éblouie qui s'impose par son rythme et sa puissance poétique, cette langue de Max Rouquette qui évoque si bien la garrigue, les traditions, la vie telle qu'elle était dans ce pays de légende. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour découvrir d'autres poètes et poésies dans Jardin d'Isis à 13h15 et 19h15.